pour moi, là, c'est une septième vague.
On n'est pas là du tout à réimposer des mesures sanitaires. Soyons très clairs.
On pense que ça va créer un précédent quand même assez inquiétant là, si ça continue comme ça puis qu'on se rend compte que c'est potentiellement légal comme manière de fonctionner.
It is clearly now the will of the Parliamentary Conservative Party that there should be a new Prime Minister.
Bonne fin de journée, tout le monde. On s'en doutait, hein, à voir le nombre de cas de COVID qui se déclarent dans nos entourages. Bien, le Dr Boileau l'a confirmé aujourd'hui, le Québec est bien entré dans sa septième vague. La situation est sous contrôle, cependant, mais juste le fait là, que le directeur national de la Santé publique du Québec fasse une sortie avec le ministre de la Santé, Christian Dubé, bien, c'est un indicateur qui a quand même de l'inquiétude. Les deux hommes forts de la santé au Québec ont fait un appel à la prudence et ont rappelé l'importance de la vaccination. Et d'ailleurs, si vous êtes un peu mêlé à savoir si vous devez aller chercher votre dose de rappel ou non, bien, on nous a donné des réponses claires aujourd'hui lors de ce point de presse. On y revient tout de suite avec mon collègue Louis-Philippe Bourdeau, qui a suivi ce point de presse. Salut, Louis-Philippe.
Salut, Michel.
Ça va rassurer certains, en inquiéter d'autres. Aucune nouvelle mesure sanitaire, malgré la hausse de cas, là, n'a été annoncée.
Voilà, c'est la première fois depuis la mi-février qu'on voit le Dr Boileau et Christian Dubé ensemble à la même table lors d'un point de presse sur la COVID-19. Donc, on pouvait peut-être s'attendre à des annonces, à un retour en arrière en termes de mesures sanitaires, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est un appel à la vigilance, surtout à la veille des vacances de la construction. Pas de nouvelles mesures sanitaires, malgré le fait qu'en effet, le Dr Boileau a confirmé que le Québec était dans une septième vague qu'on a décrite assez courte, qui durera peut-être quelques semaines, qui est arrivée également un peu plus tôt. Mais Michel, depuis un certain temps, on sentait que les indicateurs étaient à la hausse. On peut peut-être aller voir un tableau de comparaison entre le mois de juin et le mois de juillet dernier. Juin, on était à 900 quelques hospitalisations. On est à plus de 1500 maintenant. Et les personnes qui sont aux soins intensifs ont également augmenté. Combiné à ça, bien, les pressions dans les urgences, un variant qu'on a qualifié de très contagieux aujourd'hui, une transmission communautaire qui est très forte. J'ai demandé au ministre, bien, qu'est-ce qu'on perdrait à réimposer certaines mesures, notamment le port du masque dans certains transports en commun ou certains lieux publics. Bien, voici sa réponse.
On n'est plus rendu à obliger des choses alors que les gens savent très bien les risques. Il s'agit juste de les rappeler. Et c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Quand vous êtes dans un endroit où vous sentez qu'il y a peut-être un risque plus élevé, ça peut être dans le métro, ça peut être dans un lieu fermé, ça peut être parce que vous avez une proximité, même quand vous êtes assis dans un parc, gardez donc vos distances ou assurez-vous que vous avez un masque.
Bon, Louis-Philippe, le gouvernement sentait vraiment qu'il y avait de la confusion sur la vaccination et les mesures d'isolement, et on a voulu rendre ça clair aujourd'hui.
On y est allé avec trois messages et on commence à les connaître, ces messages, Michel. Le premier, bien, les gestes barrières encore et toujours. Deuxième, respecter les consignes d'isolement. Selon le Dr Boileau, les gens qui n'ont pas respecté cette consigne, bien, sont responsables de cette vague actuelle. Donc, 5 jours à la maison, 5 jours avec beaucoup de prudence. Troisième point, bien, c'est cette dose de rappel. D'ailleurs, le gouvernement qui a publié cet arbre décisionnel pour tenter de vous y retrouver, on peut le voir, c'est assez simple. On peut résumer ça à si ça fait plus de 3 mois que vous avez reçu votre dose, bien, allez chercher votre dose de rappel. Si vous avez 18 à 59 ans, et votre deuxième dose de rappel si vous avez plus de 59 ans. Donc, le gouvernement qui tente de faire bouger l'aiguille de la vaccination, qui ne bouge pas beaucoup depuis un certain temps. Et si vous êtes de ceux qui attendaient un vaccin peut-être plus efficace à l'automne, eh bien, c'est peut-être pas la bonne solution.
L'incertitude qu'on a, c'est quel sera le nouveau vaccin? Quand est-ce sera-t-il disponible? On ne le sait pas. On a espoir que ça puisse arriver au cours de l'automne, mais la certitude, c'est qu'en ce moment, ça circule et c'est le bon moment pour aller le chercher.
Merci beaucoup, Louis-Philippe.
Plaisir.
Maintenant, il y a un collège privé anglophone de Montréal qui offre à des étudiants de contourner la loi 96 et l'obligation de suivre des cours en français. Pour y parvenir, bien, il propose une 12e année pour entrer plus tôt à l'université. J'en parle avec ma collègue Anaïs Elbouch-Jaini. Salut Anaïs.
Bonsoir.
Tu nous es arrivée avec cette histoire-là ce matin, assez surprenante. Et d'ailleurs, pour ceux qui pourraient... En fait, ceux qui pourraient être surpris, ce sont ceux qui pourraient s'inscrire. On parle d'une surprise pas très positive. Explique-nous un peu.
Bien, exact. Je rappelle qu'au Québec, la 12e année, bien, elle n'existe pas parce qu'on a fait le pari avec le cégep d'avoir une année de moins au secondaire, une année de moins à l'université. On met ça ensemble, ça donne le DEC, le diplôme d'études collégiales. Là, ce qu'on apprend, c'est qu'il y a quelques écoles secondaires au Québec qui offraient déjà la 12e année, mais là, ce serait le premier collège qui offre ce programme. Et c'est le collège TAV, qui est un établissement anglophone privé à Montréal. Puis les élèves qui s'inscrivent dans le programme qui existe pour la première fois, qui va être donné cet automne, bien, ça se peut que le programme ne soit pas valide parce qu'en ce moment, le ministère de l'Éducation et de l'enseignement supérieur sont en train de réviser et de voir si c'est valide. Donc, je t'invite à voir ce que j'ai récolté aujourd'hui.
On regarde.
Il faut comprendre que c'est un diplôme qui n'est pas reconnu là, par le ministère de l'enseignement supérieur ni par le ministère de l'Éducation puisque c'est un diplôme ontarien. Donc, c'est pas mal la première fois qu'on voit ça dans le réseau collégial, mais c'est quand même symptomatique là, d'un contexte politique là, récemment par rapport au projet de loi 96. Puis aussi, là, c'est la première fois dans le réseau collégial, mais on l'a vu dans le réseau de l'éducation là, avec des écoles secondaires privées, là, justement, qui le feraient.
J'ai fait une demande d'entrevue au Collège TAV. On m'a dit que personne n'était disponible aujourd'hui, mais je vais quand même les appeler pour essayer d'obtenir des informations.
Bienvenue au Collège TAV.
Veuillez patienter quelques instants.
I am looking for some information about the grade 12 program. Does it count as only 1 year and I have to do an extra year in university?
That's right.
Nous, on questionne la légalité de la chose, là, premièrement, puisqu'on se demande si, par rapport à la loi sur l'enseignement privé, c'est réellement légal d'offrir ce genre de programme-là ou au moins d'en faire la promotion.
Les ministères de l'Éducation et de l'enseignement supérieur disent être au courant de la situation et qu'en ce moment, eh bien, ils poursuivent leur analyse de la question, surtout à la lumière de la loi 96, mais que la 12e année d'un système scolaire étranger, bien, il ne peut pas être autorisé par ces ministères. N'empêche, sur le site web du Collège TAV, ce qu'on mentionne, c'est que de s'inscrire dans cette 12e année, c'est une façon de ne pas subir l'impact de cette loi 96.
Bien, c'est inquiétant puisqu'au Québec, on a fait le choix là, collectivement d'aller vers un modèle différent d'éducation, donc justement qui permettait une certaine démocratisation de l'éducation via le réseau collégial, donc de justement pouvoir, à moins grand coût qu'à l'université, commencer une formation.
I'm a Quebec resident. How much would it cost?
The fees are the same for everyone because it's a non-funded program. So it would be $13,900 for the program.
Okay, but I can get help from the government, like the...
No.
Oh,
because
okay.
It's an Ontario program.
But in Quebec?
It's technically, it's online, but we will be doing it on campus.
On pense que ça va créer un précédent quand même assez, assez inquiétant là, si ça continue comme ça, puis que on se rend compte que c'est potentiellement légal comme manière là, de fonctionner. Là.
Au lendemain de la démission d'une soixantaine de membres du gouvernement britannique et à la suite d'un mandat rempli de scandales, bien, c'est au tour du premier ministre lui-même, Boris Johnson, d'annoncer sa démission. Il va assurer l'intérim jusqu'à la nomination de son successeur. On fait le point avec Mathieu Boisseau et les journalistes pour France Télévisions. On le retrouve en direct à Londres. Bonsoir, Mathieu.
Bonsoir.
Boris Johnson, oui, qui est devenu le premier ministre de l'Angleterre en 2019 avec une majorité historique grâce à sa grande popularité et sa volonté de faire avancer le Brexit. Comment on peut perdre autant l'appui de sa population aussi vite?
Ah oui, c'est une chute vertigineuse en seulement 3 ans. L'explication, c'est essentiellement à cause des scandales à répétition, le comportement de Boris Johnson qui a fini par le conduire à sa perte. Je ne vais pas vous faire la liste de toutes les polémiques qu'il y a eu depuis son accession au 10 Downing Street, mais on peut citer quand même la principale affaire, c'est le Partygate, comme on dit ici, c'est-à-dire scandale des fêtes illégales à Downing Street pendant les confinements. Boris Johnson a d'abord dit qu'il n'y avait jamais eu de fête, puis il a dit qu'il n'y avait pas vraiment participé, puis qu'il ne savait pas qu'il s'agissait de fête. Il ne s'en est jamais remis, sa popularité n'a jamais cessé de chuter. Et puis plus récemment, c'est une affaire interne au Parti conservateur qui a ravivé la colère de la majorité. Boris Johnson a été accusé d'avoir nommé à un poste clé un député qui était pourtant accusé d'agression sexuelle. Là encore, il a mis temps à s'expliquer, à s'excuser, et les conservateurs ont fini par décider que c'était trop.
Certains sondages démontrent qu'une grande majorité de Britanniques souhaitaient sa démission. Est-ce que c'est ce que vous avez entendu sur le terrain aujourd'hui?
Oui, Boris Johnson a longtemps été très populaire et même si les Britanniques n'étaient pas toujours d'accord avec ses idées, au moins ils le trouvaient sympathique parce que Boris Johnson, c'est quelqu'un d'assez décalé, souvent amusant, qui n'est jamais contre une mise en scène loufoque, notamment pour promouvoir ses idées pour le Brexit. Mais au fil du temps, on a senti, notamment dans nos interviews, que même les électeurs conservateurs en avait marre parce que Boris Johnson a souvent menti. Donc, il y a ce soir une sorte de soulagement généralisé à l'avoir quitté le 10 Downing Street.
Il reste une trentaine de secondes. C'est quelle est la suite des choses maintenant qu'il a démissionné et qu'il y a plusieurs membres de son gouvernement qui sont partis?
Alors, en théorie, le processus d'élection au sein du Parti conservateur qui va déboucher sur la nomination d'un nouveau premier ministre environ 2 mois. Donc, il faut un peu de temps. Boris Johnson a déjà dit qu'il était prêt à rester en place jusqu'à ce qu'un successeur soit nommé.
À suivre, Mathieu Boisseau, merci beaucoup de France Télévisions. Au revoir. Les interpellations policières aléatoires dont font malheureusement trop souvent l'objet des membres de la communauté noire sont-elles inconstitutionnelles? Violent-elles le droit à l'égalité protégée par la Charte canadienne des droits et libertés? Ben, ce sont les questions qui sont au cœur d'un procès dont les plaidoiries se terminaient aujourd'hui au Palais de justice de Montréal. On en parle avec notre invité Fonyemi. Il est directeur du Centre de recherche Action sur les relations raciales. Bonsoir, M. Niemi.
Bonsoir.
L'affaire a été lancée par un homme noir de Montréal, Joseph Christopher Luamba. Il dit avoir été intercepté par des patrouilleurs une douzaine de fois sans raison valable. Que plaide M. Luamba et l'Association canadienne des libertés civiles?
Mais essentiellement, on remet en question la légalité, la constitutionnalité de l'article 636 du Code de sécurité routière qui donne aux agents de la paix le pouvoir pratiquement absolu d'interpeller des conducteurs de véhicules sur la place publique pour des vérifications et pour interpellation sans motif valable. Et ce pouvoir-là était l'objet d'une décision de la Cour suprême en 1990. Donc, c'est là depuis longtemps. Et puis, la charte évoluait au fil des années. Ouais. Et puis, on voit que c'est un pouvoir qui est exercé de manière souvent très, très discriminatoire à l'endroit des conducteurs, des hommes noirs qui conduisent des automobiles.
L'avocat du gouvernement est d'avis, en fait, que c'est utile, là, quand même, ces interpellations policières aléatoires.
Bien sûr, je crois que le gouvernement défend la législation pour dire que, écoutez, c'est pour des effets de dissuasion, pour des questions de sécurité publique et puis la sécurité aussi routière qu'on donne aux autorités, les policiers, le pouvoir d'interpeller, de vérifier tout véhicule sur la route. Mais ce qu'on plusieurs personnes disent, et ce que M. Lumba dit aussi, c'est que c'est un pouvoir discrétionnaire qui devient très arbitraire et exercé de manière discriminatoire. Donc, il faut soit bien ou bien déclarer l'article tel quel inconstitutionnel parce que discriminatoire, ou bien il faut le délimiter et puis circonscrire davantage pour éviter de donner aux autorités le pouvoir d'aller à la pêche, d'interpeller n'importe qui et n'importe quand.
Bon, dites-nous, on en est où du côté du profilage racial envers les conducteurs noirs? En août 2020, on veut juste rappeler qu'il y a le ministère de la Sécurité publique qui annonçait la modification du guide des pratiques policières pour y inclure des nouvelles recommandations. On disait que les interpellations policières ne doivent pas être faites sans fondement. Il y a des critères à respecter. Le SPVM a fait une annonce dans ce sens-là également. Est-ce que depuis ce temps-là, ça a changé un peu sur le terrain? Est-ce que vous sentez que le changement s'est amorcé?
Bien, on ne voit pas le changement parce qu'on continue à recevoir des plaintes de conducteurs noirs de tous les âges. On vise surtout les hommes noirs qui se font interpeller, que ce soit à Montréal ou à l'extérieur de la région métropolitaine de Montréal, ou de souvent sans motif. C'est ce qu'on appelle ça une interpellation aléatoire, disons vérification de routine. Ce qu'on est en train de se demander, c'est qu'est-ce qui se passe depuis l'adoption de lignes directrices-là, parce qu'on n'a pas d'informations. Et l'un des défis, c'est faut colliger aussi l'information sur le type d'interpellation et la race des conducteurs qu'on interpelle. Ouais. Parce que sans ces données-là, on ne peut pas vraiment préciser de manière claire et quantitative est-ce que les hommes noirs sont disproportionnellement interpellés.
Ça. Parce qu'on n'a pas beaucoup de données là-dessus. Mais il y a des plaintes, ça, c'est certain. Monsieur Niemi, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
D'accord, c'est moi qui vous remercie.
Au revoir.
Bonsoir.
À Minneapolis maintenant, Derek Chauvin, le policier impliqué, vous savez, dans la mort de l'Afro-Américain George Floyd en mai 2020, a été condamné à 20 ans et 5 mois de prison par la justice fédérale. L'ancien agent de 46 ans avait aussi écopé d'une peine de 22 ans et demi de prison là, prononcée par la justice de l'État du Minnesota, mais il a fait appel de la sentence. La peine fédérale là, d'aujourd'hui est définitive puisqu'elle découle d'un accord. Les deux peines seront purgées simultanément. Le Centre Bell accueille ce soir et demain le repêchage de la Ligue nationale de hockey. C'est un événement attendu tant pour certains commerçants du centre-ville que pour les supporters du CH. CH qui aura le premier choix au repêchage. J'en discute avec notre collègue de RDS, Stéphane Leroux. Bonsoir, Stéphane.
Bonsoir.
Ça s'entend un peu, il y a de l'ambiance déjà un peu devant le Centre Bell, là.
Ouais, moi, je couvre la séance de sélection de la Ligue nationale année après année. C'est probablement la seule ville dans la Ligue nationale où il y a autant de monde pour un repêchage. Ça va être plein ici ce soir. Oui, il y a de l'ambiance. Ouais. Il y a de la fébrilité pour plusieurs raisons. Surtout le fait que le Canadien a le tout premier choix et a deux choix dans la première ronde ce soir. Alors ça, je pense que ça ajoute là, déjà à ce qui est une séance de sélection qui est toujours un moment un peu fébrile.
Le repêchage, le dernier repêchage à Montréal, là, corrige-moi si je me trompe, mais c'était il y a 13 ans. C'est un événement en soi. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour le Canadien, que ce soit ici à Montréal?
Bien, c'est en 2009, tu as raison. John Tavares avait été le tout premier choix de cette séance de sélection. Là, ce que ça change, bien, tu as les partisans qui sont là, qui vont scander, qui vont crier les noms des joueurs qu'ils souhaitent voir se faire repêcher par le Canadien. Ça ajoute peut-être au spectacle. Montréal, on le sait, c'est une grande ville de hockey dans la Ligue nationale et il y a quelque chose de... Il y a une espèce de petit feeling en ce moment là, qui est pour les partisans derrière, là, on les rencontre. Ouais. Ils ont hâte que ça commence.
Bien, ça commence à 19h. C'est un événement qui est sur deux jours. Le Canadien a le premier choix, tu le disais. C'est la première fois depuis 1980. Rappelle-nous un peu là, les trois joueurs qui sont dans la mire du tricolore.
Bien, on parle beaucoup de Shane Wright. Évidemment, il est l'espoir numéro un en Amérique du Nord. Il jouait pour les Frontenacs de Kingston cette année. C'est un jeune homme qui avait eu un statut exceptionnel à l'âge de 15 ans pour jouer junior dans la Ligue de l'Ontario. Il avait marqué 39 buts à ce moment-là lors de la saison 2019-2020. On parle beaucoup du Slovaque Juraj Slafkovský qui a été excellent lors des Jeux olympiques et lors du championnat du monde de hockey senior. Et il y a un Américain également qui s'appelle Logan Cooley qui a été très bon lui aussi au Mondial des moins de 18 ans. En ce moment, on ne sait pas là, vraiment vers qui on va se retourner pour faire le choix. Mais chose certaine, Wright et Slafkovský, ce sont les deux premiers espoirs, là, un en Amérique et un en Europe.
Bon, je disais, ça commence à 19h. Rappelle-nous un peu comment ça fonctionne au juste.
Bien, ce soir, il y a 32 choix, la première ronde. Ça va durer quand même un bon 3h, 3h30, parce que c'est le spectacle. Les joueurs montent sur l'estrade pour aller mettre le chandail. Et demain, à compter de 11h, il y aura les rondes 2 à 7, où là, ça va beaucoup plus rapidement. On peut parler de peut-être 4 heures là, pour faire cette ronde demain. Et ça va presque être le même temps pour faire une seule ronde ce soir.
Alors, on verra qui le Canadien va repêcher. Hein, que ça pourrait déterminer un peu l'avenir du club, hein, certainement. On va suivre ça. Bien, merci beaucoup.
C'est ça. Merci, ça fait plaisir.
Bye-bye, bonne soirée. Toute une frousse maintenant pour une nageuse de Trois-Rivières. Marie-Sophie Harvey affirme qu'elle a été droguée à son insu lors de la dernière journée des Mondiaux aquatiques à Budapest, en Hongrie. C'était la semaine dernière. Elle est sortie dans un bar pour célébrer la fin de la compétition. Et elle a oublié ce qui s'est passé pendant 4 à 6 heures, imaginez. Elle ne se souvient en fait seulement de s'être réveillée le lendemain aux côtés du gérant de l'équipe canadienne et d'un médecin. L'athlète de 22 ans a raconté son expérience à ma collègue Amélie Saint-Yves.
C'est pas le meilleur sentiment d'avoir un trou noir puis de pas être en contrôle, de se rappeler de qu'est-ce qui s'est passé.
Est-ce que vous savez si vous avez été accompagné de vos amis tout au long de cette soirée-là?
Je dirais pour la plupart, oui. Mais une de mes amies, en fait, me trouvait dans la rue. Puis je pense que c'est ça aussi la crainte que j'ai. C'est ça, c'est pareil. J'arrêtais pas de dire de ne pas me laisser tout seul.
Scène culturelle maintenant. Préparez vos appareils photo et rendez-vous au Centre Phi dans le Vieux-Montréal pour voir l'exposition de l'artiste japonaise Yayoi Kusama. À 93 ans, elle nous offre des immersions colorées uniques. Il faut faire vite cependant pour obtenir des billets parce que en fait, c'est complet jusqu'au 31 juillet et les billets du mois d'août seront distribués dès le 15 juillet. Mon collègue Jérôme Scalia nous propose un avant-goût de cette exposition.
C'est une exposition qui est à la fois ludique et parfaite pour les familles, les enfants, mais à la fois, il y a une certaine profondeur qui va nous faire réfléchir longtemps. Et je pense que c'est pour ça que Kusama est probablement l'artiste le plus connu, populaire en art contemporain en ce moment. Yayoi Kusama est une artiste qui a maintenant 93 ans, qui a passé 70 ans de sa vie à créer les tableaux, les sculptures et surtout les environnements immersifs. Le plus grand motif du travail de Kusama, c'est probablement les poids ou les points. Et ces poids ou points sont vraiment liés avec sa préoccupation de la grande mystère de l'univers et notre place dedans. Alors on peut imaginer ces petits points qui sont partout, comme les étoiles dans le ciel. Et nous sommes aussi comme une étoile qui brille, mais on est parmi des billions et des billions. Qui souligne un petit peu la question existentielle, philosophique de Kusama, qui voulait bien comprendre et être en paix avec la question de notre existence et le fait qu'un jour, on va faire partie des cosmos.
Bonsoir, Étienne.
Bonsoir, Michel.
Décès aujourd'hui d'un des acteurs d'un film mythique.
Oui, James Caan, qui a joué le fils du parrain dans Le Parrain, décédé aujourd'hui à 82 ans. Vous reconnaissez sûrement le visage parce qu'il a touché toutes les générations avec des films, notamment aussi le film Misery, un autre film qui a été très marquant. Mm-hmm. On dit qu'il a joué pour les plus grands réalisateurs. Les plus jeunes le connaîtront comme un des acteurs du film Le Lutin. Un film avec Will Ferrell, mm-hmm. Donc décès aujourd'hui à 82 ans.
Maintenant, parlons de ce qu'on va surveiller ce soir, le repêchage. On va voir qui le Canadien va aller repêcher.
Exactement, avec le premier choix après une saison à oublier pour le Canadien. Ouais. Donc, on le sait, on parle beaucoup de Shane Wright, de Yorav Flakovsky, Logan Cooley. On verra ce soir, on reçoit notre collaborateur Riri Lalonde qui va nous analyser le choix du Canadien. On l'attend depuis tellement longtemps. Ouais. On sait que c'est un gros show, ce repêchage. Et c'est à Montréal.
Et ça dure deux jours. Ouais. On va en parler également demain. Et ce soir, tu reviens sur la COVID avec Dr. Vadeboncœur.
Septième vague, masque ou pas. Les autorités disent pas pour l'instant. On va en parler avec lui.
Ouais. Merci beaucoup. On regarde ça, 22h. Bonne soirée tout le monde. On se retrouve demain dès 17h30. Bye-bye.